Est-ce qu'il y en a de temps en temps parmi vous qui regardent des horoscopes, ce genre de choses?
Des coups de couleur. Genre Capricorne.
Vous faites ça ou pas? Non. La personne qui écoute les pseudo-tests de personnalité comme l'horoscope? Personne. Oui, vous, madame? Vous êtes peut-être la seule qui ne mentait pas. Hein. C'est juste ça. On va voir pourquoi ils sont si populaires. Habituellement, les gens aiment bien ça. Et l'effet Barnum, c'est un ancien directeur de cirque. Selon lui, il en faut un petit peu pour tout le monde. Pour qu'il y ait un bon spectacle, on en met un petit peu pour tout le monde. C'est ce mélange de numéros qui fait que tout le monde va être content. Et donc, de fait, dans les pseudo-thèses de personnalité, vous avez toujours un petit peu toujours la même chose, hein, amour, santé, professionnel, richesse, argent. Toujours les mêmes ingrédients, et avec des choses relativement vagues. Vagues pourquoi? Puisqu'il s'agit d'une illusion fondée sur des faits confirmatifs. S'il y a des choses qui peuvent coller à cela, vous direz, ah bah tiens, au fond, il y avait un truc, c'est juste. Et ça maintient l'illusion d'une prophétie finalement annoncée. Et il y a des biais dus à la conservation de l'image de soi. C'est-à-dire que vous allez retenir les seules choses qui sont en lien avec, comme le nom l'indique, une image de vous-même positive, et que le reste va être oublié. Donc trois effets pour pouvoir comprendre le succès de ces pseudo-tests de personnalité.
Vous serez là, vous serez vous de cet homme. Vous voyez les classes tristement célèbres. C'est la sœur de Sam qui a en effet participé à nos expériences. Avez-vous les conclusions psychiatriques sur des choses dans le rapport à la guerre? Professeur, que des tests que vous faites passer? Pouvez-vous tester chez un individu une maladie mentale? Parce que, par exemple, s'est-il comporté selon vous comme un paranoïaque?
Le mieux, il me semble, est de tirer au sort pour désigner qui sera le moteur et qui sera l'élève.
Ah, je t'ai demandé tout à l'heure.
C'est donc monsieur Rivoli qui sera l'élève.
Pour nous en tu
Je vous en prie.
De Milgram, hein, cette fameuse expérience de Stanley Milgram qui l'a fait pour essayer d'expliquer pourquoi des personnes suivaient des ordres dans l'après Deuxième Guerre mondiale des ordres qui allaient jusqu'à tuer d'autres personnes. Et cette étude qui fonctionne par l'annonce de personnes à recruter et dont la détermination des rôles est bien sûr truquée. On s'intéresse plus à l'examinateur qu'à l'élève, qui est de mèche, conduit à voir comment le dispositif, le fait qu'il y ait une personne en blouse blanche, le fait qu'il y ait des instructions bien claires, comment le dispositif va pouvoir influencer la punition pour l'apprentissage d'associations de mots. Toutes un petit peu bêtes, mais l'intérêt ici, c'est de voir jusqu'où une personne va. Pour essayer de répondre à cette question qui animait les personnes à ce moment-là, et dire, mais dans le fond, est-ce que tout le monde est capable de devenir un criminel ? Tout le monde est-il capable d'exterminer une autre personne, de lui infliger des souffrances pour des... parce qu'on lui a donné l'ordre. Donc, s'agit-il d'un problème chez une personne ou est-ce qu'une personne soumise à un ordre, quelle qu'elle soit, va réaliser ce qu'on lui demande. Alors, il a montré, Milgram, que finalement, tous les sujets suivaient à la lettre tout ce qu'on lui demandait, tout ce qu'on leur demandait. Puis, il y a une série de critiques liées à son étude, entre autres en lien avec le fait que, on a dit pour certains sujets que c'était une expérience qui utilisait la tromperie. Je ne vais pas dire directement au sujet recruté que, en fait, c'était pour du faux, donc il y avait une tromperie. Ben, on leur disait qu'une année après, par exemple, ou que d'autres se rendaient bien compte qu'ils voulaient jouer au chercheur et non pas jouer à la personne qui punissait dans le cadre d'une expérience. Ou d'autres se rendaient compte que c'était pas vraiment raisonnable qu'on demande à une personne d'électrocuter une autre pour l'apprentissage d'un groupe de mots, et donc il y avait un truc et que ça ne tenait pas vraiment la route. Mais si on me le demandait, pour plaire aux chercheurs, j'allais le faire. Donc il ne s'agit pas forcément d'une conclusion d'une étude qui serait toute personne soumise à une demande dans un certain contexte va la réaliser, quelle que soit cette demande aberrante ou l'agressivité ou la dangerosité de cette demande. Mais ça pose la question justement de l'influence qu'une situation peut avoir sur la décision qu'va prendre une personne face à un ordre. Pareil. On a vu la fois dernière, il y a des recherches appliquées et des recherches fondamentales. J'ai déjà fait le point la fois dernière là-dessus. Avec des recherches appliquées, vous voyez ici, on voit bien l'intérêt d'avoir des boutons qui soient placés de manière plus adaptée pour les trouver plus facilement. L'intérêt de voir à travers le volant c'est son compteur de vitesse. L'intérêt de pouvoir arranger bien ou mieux les informations en face de soi. Donc cette recherche appliquée vise juste à pouvoir modifier les choses en fonction de ce qui sera le plus pratique. Alors, on l'oppose souvent à la recherche fondamentale qui va viser à prédire, expliquer, décrire, qui sont trois des quatre missions de la psychologie. Bien sûr, je vous l'ai dit la fois dernière, même dans une recherche fondamentale, il y a un but final qui vise souvent une application ou un impact. Ce n'est pas délié totalement de la réalité ou des intérêts qu'on pourrait avoir. Ça, j'en ai parlé. Et je vais parler de ça maintenant, les 6 étapes de la méthode scientifique. Dans ces 6 étapes de la méthode scientifique, il y a cette première étape qui est de questionner, de poser une question, une bonne question, et de faire une revue de la littérature. Sur cette base-là, de ce qui existe déjà, pour ne pas réinventer la roue quelque part, ne pas refaire exactement ce que quelqu'un d'autre a fait, pour faire évoluer le savoir et la connaissance, dans une seconde étape, il faudra formuler des hypothèses testables. Avoir des hypothèses qui ne sont pas testables ne permet pas d'implémenter un protocole de recherche et de le tester, bien sûr. Donc, hypothèse testable. Il faut pouvoir mesurer les choses. Au-delà de ça, une fois qu'on a une hypothèse testable, on va faire un design, un protocole de recherche. Quel est le meilleur protocole pour pouvoir tester l'hypothèse que j'ai? Ensuite, on va récolter des données et les analyser. Ensuite, faisant partie intégrante de ces étapes de la méthode scientifique, on va publier ces données pour qu'elles puissent être revues, critiquées, réfléchies par d'autres chercheurs. Et ensuite, on va utiliser le gain de savoir, la plus-value de savoir, pour pouvoir contribuer au développement d'une théorie. Intégrer les informations pour pouvoir avoir une théorie. Et que la collection d'informations ne soit pas détachée de la compréhension même d'un phénomène de manière plus large. Donc, on commence par la littérature et on arrive à la littérature pour pouvoir faire cette démarche scientifique. L'hypothèse, c'est donc une explication testable. Des relations entre deux variables ou plus, c'est une prédiction qui va être testable. Il faut faire une définition opérationnelle qui va pouvoir identifier précisément quelles vont être les variables, quelles seront les mesures et qu'est-ce qui sera observé. Et cela avec un aspect de statistiquement significatif. Il faudra bien déterminer comment on va pouvoir rendre ça interprétable et voir si cela est significatif en fonction, bien sûr, des tests qui vont être réalisés de la méthode. Une méta-analyse, c'est une technique statistique qui va combiner et analyser des données de différentes études pour voir une tendance générale. Et une théorie, ce sont des explications qui sont bien soutenues pour un phénomène ou un groupe de faits qui a été répété et confirmé par des chercheurs précédents. Et donc, un résultat, une fois, sur un groupe, à un moment donné, dans une population, à une certaine époque, ne va pas être, selon cette méthode scientifique, suffisant pour pouvoir établir une théorie. Il faut répéter les mesures, répéter les observations, pouvoir les retester de manière régulière. Une expérience qui ne marcherait qu'avec un certain chercheur à un certain moment, mais n'est pas une expérience qui est répétable, reproductible. Et donc, dans ce contexte-là, il faut pouvoir tester à nouveau et questionner les les résultats. Alors, les différentes étapes de la démarche scientifique, ici je les ai remis pour vous, parce qu'ils sont absolument, absolument importants. Dans toutes vos filières d'études, que ce soit la neurosciences, la pharmacie ou la médecine, il s'agira de pouvoir se questionner à chaque fois sur la pertinence de l'information qui vous est transmise. Faire marcher votre esprit critique pour pouvoir vous questionner sur la portée que peuvent avoir les informations que vous avez et la nuance que vous devez éventuellement apporter à ces données-là. Alors, voyons maintenant ceci. Singe qui s'est fait entuber, hein, ça, si jamais. Réfléchir un petit peu à ces expériences sur les animaux et aux aspects éthiques de ces expériences sur les animaux pour faire avancer la recherche. Alors, de manière assez classique, si personne ne se présente ouvertement contre les animaux, en disant « je suis contre les lapins, je suis contre les poulets, je suis contre les singes », c'est un discours qu'on entend rarement. La majorité des gens sont contents quand leurs gouttes ophtalmiques ou leurs crèmes ont été testées dermatologiquement, sans poser la question de ce que ça sous-entend, ce test dermatologiquement. Et sans poser la question que pour le développement de toute une série de molécules, dans les phases dites précliniques, la recherche est absolument indispensable. Alors, il faut bien distinguer la recherche menée respectueusement des animaux, visant, et ce sont des courants en recherche utilisant animal, à la réutilisation des animaux en fin d'expérience, pour qu'ils ne soient pas sacrifiés juste après avoir participé à une expérience. Et tout le mal qui peut être fait à des animaux dans des circonstances qui sont tout à fait répréhensibles. Mais vous le voyez ici dans ce petit cartoon, hein, le paradoxe de la recherche sur des animaux qui augmente l'espérance de vie, c'est que ça Ça remonte aussi la protestation des manifestants plus longtemps. Du coup, comment faire pour avancer? Et la région wallonne est assez pionnière là-dedans. Mais il faut toujours rester vigilant par rapport à ce qui peut être fait. Alors, voyez ici, c'est cet a priori qu'il y a, hein, cette croyance, pourrait-on dire, c'est un a priori, une conviction, une préconception, avant toute information, qu'il y a chez des activistes et des non-activistes en faveur de l'utilisation des animaux dans la recherche, où les activistes pensent qu'il y en a beaucoup plus que les non-activistes, etc., etc. Et les non-activistes pensent qu'il y en a quand même beaucoup plus dans la nature que dans la recherche. Donc la question des préconceptions est bien sûr influencée par ce que l'on souhaite, ce que l'on croit, et ce pourquoi on va éventuellement se manifester. L'éthique de la recherche et les droits du sujet âgé sont particulièrement importants. Et en Belgique, il y a même une loi pour les droits du patient, hein, qui date de 2002, au-delà de toutes les manifestations et les protocoles d'éthique, et le fameux protocole de Helsinki qui va surveiller que ce qui est fait dans le cadre d'une étude est bien éthique. Il y a des comités d'éthique pour la recherche concernant l'animal, d'autres comités d'éthique pour la recherche concernant les êtres humains, qui vont être attentifs aux aspects éthiques de tous les protocoles. Alors à la fois, il y a ici le consentement éclairé, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire « oui, j'accepte de le faire ». Pour les humains, bien sûr, pour les lapins, c'est un peu plus compliqué. La participation volontaire, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas être contraints de participer, ils doivent y participer de manière volontaire. Ils doivent pouvoir dire « oui », ils doivent pouvoir dire « non ». Un usage limité de la tromperie et des séances de compte-rendu. Si vous faites une enquête sur les psychopathes et les voleurs chez les étudiants en filière de santé médicale, médecine et pharmacie, et que vous posez une séance en disant « j'ai trouvé un portefeuille dans lequel il y avait 500 euros. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas de document d'identité. Est-ce que personne... Non. La personne qui a perdu le portefeuille peut me contacter. Ah non. Par le mail, excusez-moi. Et donc j'aurais probablement une dizaine de personnes qui m'ont contacté pour me dire c'était bien. Et donc il y a déjà un premier tri de personnes en utilisant la tromperie pour pouvoir identifier des personnes qui seront désireuses d'avoir quelque chose qui ne leur appartient pas. Il faut bien sûr, quand on utilise la tromperie, pouvoir révéler qu'il s'agissait de tromperie et informer, avoir un compte rendu. Et ça, c'est bien sûr surveillé dans des protocoles éthiques. On ne peut pas tromper quelqu'un dans le cadre d'un protocole de recherche sans lui expliquer, à un moment donné, le plus rapproché possible, pourquoi on a fait ça, pourquoi c'est important d'utiliser ceci, quelles peuvent être les conséquences de cela, etc., etc. La confidentialité, c'est le pivot naturellement de tous les soins de santé. Il faut que ce soit confidentiel, le secret. Seul le secret permet à la personne de se confier, d'avoir confiance, de déclarer les difficultés, les problèmes, les symptômes dans le cadre de la relation médecin-malade, mais également dans le cadre d'un protocole de recherche. Il n'y a pas de raison qu'on puisse réidentifier une personne ou que des données la concernant puissent être révélé à d'autres personnes et à des tiers. Une activité de rechange, ça consiste à pouvoir tout de même bénéficier de quelque chose si l'expérience apporte un plus. Si vous faites une expérience qui permet de chez les patients, ceux qui ont une dépression, et cette expérience permet de mieux réguler leurs émotions et leur apporte un gain en termes de Vous ne pouvez pas ne pas proposer quelque chose aux personnes qui refuseraient d'y participer. Parce qu'elles perdraient un certain avantage qu'elles auraient pu avoir en participant à l'étude. Une activité alternative doit être proposée. Et un comité d'éthique va veiller à ces 5 points-ci, mais ne va pas se prononcer sur la pertinence du protocole scientifique, l'exactitude de la méthodologie utilisée, la liste statistique est-elle correcte. Maintenant, elle peut se prononcer sur la pertinence de faire cette recherche chez des individus, si cette recherche est particulièrement pénible et difficile. Faut-il aller plus élevé chez autant de personnes, tel facteur, alors que cela est déjà connu dans la population, que ce facteur corrèle avec tel autre facteur. Est-ce que c'est éthique de faire ce genre de choses encore et encore, alors que l'information est déjà disponible? Alors, s'agissant du setting d'une étude, différentes méthodes, donc protocoles, différentes méthodes peuvent être utilisées. Ici, vous avez un exemple avec l'impact de la violence télévisuelle sur l'agressivité. Est-ce que voir de la violence à la télévision va augmenter l'agressivité chez les personnes qui la regardent? C'est une hypothèse. Et cette hypothèse ici, c'est la violence télévisuelle augmente l'agressivité. On va prendre des participants, les répartir aléatoirement, et ils vont être soumis à 2 conditions expérimentales, hein, un groupe expérimental et un groupe témoin, donc des contrôles. Certains ne font rien, mais ils regardent juste une émission non violente, et les autres une émission violente. On les met en présence d'une poupée punching ball, et puis on voit combien de fois ils vont frapper cette poupée qui porte le nom de Bobo. Peut-être parce que c'était des bobos, mais c'était pas la même langue, donc elle s'appelle Bobo, c'est comme ça. Puis on va comparer dans les groupes et voir si ceux qui faisaient partie du groupe expérimental frappaient plus ou pas. Et pouvoir se dire, mais tiens, est-ce que ça a un impact? On se pose des questions quand on doit construire un design, quant aux chercheurs, quant aux participants. Le chercheur peut avoir un parti pris, peut se dire, oui, la méditation, ça marche, d'ailleurs, moi j'en fais tous les jours, ça a sauvé ma belle-mère, et je vais vous montrer que ça marche. C'est pour ça que je fais une expérience, pour vous montrer que ça marche. En fait, de toute façon, il n'y a même pas besoin de la faire, l'expérience, parce que je sais déjà que ça marche. Et donc, on peut imaginer des biais qui peuvent découler d'un parti pris de cet expérimentateur. Différentes solutions avec des observateurs neutres, une expérience à simple et à double insu, utilisation de placebo quand c'est approprié, sont importants. Puis il y a d'autres problèmes potentiels, l'ethnocentrisme, c'est-à-dire faire une enquête dans une seule culture, une seule population, qui pourra apporter des biais puisqu'elle ne serait pas représentative de la population générale. La solution là est de faire un échantillonnage transculturel, bien évidemment. Pour les participants, différents problèmes potentiels, les biais de l'échantillon. On va faire un échantillonnage aléatoire, avec des répartitions aléatoires, et puis des biais liés aux participants, encore une fois, où on peut avoir des participants qui eux-mêmes sont convaincus, oui, c'est une étude pour la méditation, j'y participe parce que la méditation, j'y crois. Et je sais que ça marche, et d'ailleurs, je vais bien faire les exercices pour leur montrer que ça marche super bien, et bien répondre au questionnaire pour leur montrer qu'il y a vraiment une différence avant et après. Bon, pourquoi pas. La solution va être l'anonymat, la confidentialité, l'éventuelle tromperie, l'expérience à simple et double insu, ne pas dire exactement ce qu'on va regarder dans l'expérience pour pouvoir faire en sorte que la désirabilité d'un sujet à plaire à l'expérimentateur puisse ne pas entacher les résultats de l'étude. Alors, différents types de recherches, la recherche qui peut être expérimentale, identifier la cause et l'effet, Elle permet aux chercheurs d'exercer un contrôle sur les variables et ainsi d'identifier les causes et les effets. Recherche qui peut être descriptive, une observation naturelle, les enquêtes, les études de cas. On va là observer, recueillir et enregistrer les données. C'est moins artificiel. Mais il n'y a pas vraiment de contrôle sur les variables. Alors, des études peuvent être corrélationnelles. C'est des analyses statistiques des relations entre les variables. On va identifier les relations entre une chose et l'autre, hein, et pour pouvoir prédire quand il y a ceci, alors il se passe cela. Et voir si c'est une corrélation ou un lien de causalité, pour ne pas confondre la corrélation et la causalité. Il y a des méthodes qui vont utiliser la biologie, avec des études de cas, des observations directes, des corrélations, pour identifier les relations de cause à effet, et décrire ainsi que prédire. Ça présente tous les avantages et inconvénients des méthodes préalables. Bien sûr, dans les enquêtes, la dernière question, quel est le plus grand fantasme, c'est mentir aux enquêteurs. Et bien sûr, dans les enquêtes, il y a des questions qui permettent de croiser les données, de voir avec laquelle rigueur vous avez participé à une enquête, etc. Et en guise de devoir à faire avant lundi prochain, vous aurez un questionnaire qui vous sera posé, auquel vous serez invité à participer pour dimanche au plus tard. Et vous rendre compte que des données récoltées peuvent être analysées d'une certaine manière, et votre manière de répondre pourra conditionner aussi les résultats et les analyses. Alors ici, vous avez un exemple de corrélation. Les personnes qui mangent beaucoup... Il y a une corrélation entre la consommation de glace vanille, enfin de glace, d'ice cream, et la mort par noyade dans des piscines. Alors, est-ce à dire qu'il vaut mieux pas manger de glace pour ne pas mourir de noyade? Pas vraiment. Il se fait que les gens mangent souvent de la glace en été, qui vont aussi dans les piscines en été, et que cette corrélation n'est absolument pas causale. Sauf si il plongeait pour aller chercher un morceau de glace. Ah bon, on aurait pu imaginer, mais ce n'est pas le cas. Ça va ? Donc, corrélation, mais ce n'est pas une cause. La puissance d'une corrélation est calculée par une formule qui va produire un nombre entre 1 entre 0 et 1, ou entre 1 et moins 1, et on va avoir une corrélation qui va être ainsi représenté souvent sous cette forme graphique entre l'axe horizontal et vertical pour pouvoir se rendre compte d'une corrélation proportionnelle, positive ou négative, ou l'absence de corrélation. Encore une fois, faites attention, une corrélation ne veut pas dire cause. Alors, il y a des superstitions qui deviennent des corrélations un peu illusoires. Alors, peut-être que vous avez déjà, vous, développé ces différentes corrélations. Genre, pour prendre un exemple en dehors de l'auditoire, vous avez déjà observé Raphaël Nadal jouer au tennis ? Qui a déjà vu Raphaël Nadal jouer au tennis ? Et qu'est-ce qu'il fait avant ? Vous savez refaire la séquence ? Vous avez vu la séquence de gestes qu'il fait, hein, qui est faite un peu comme un mantra, de manière extrêmement obsessionnelle, dont il ne peut dériver, puisqu'elle devient une sorte de nécessité à remplir dans un ordre, une vitesse et une calendrier. Alors vous aussi, peut-être que pour aller à l'examen, vous mettez tel big dans votre plumier, ou vous levez de tel pied, etc., etc. Et donc, vous avez probablement développé des obsessions avec des corrélations liées au fait que vous êtes convaincu que ça va marcher, parce que l'intelligence se trouve dans le bic et pas dans la tête, c'est bien connu, ou dans tout autre artifice qui peut être associé à cette réussite. Et donc le fait que, ici, hein, dans certaines coutumes, hein, que vous pouvez partager ou non, hein, peu importe, c'est l'histoire des étudiés, hein, dans les alliances, dans les mariages, la mariée va porter quelque chose qui peut être plus ancien, qui était utilisé, la robe de mariée de quelqu'un qui a été marié pendant longtemps, etc. Et il y a cette superstition qui serait un transfert de capacité d'un individu à l'autre par le port de la robe. Même chose dans une superstition de se mettre du sel sur l'épaule gauche ou de frapper du bois. Vous faites parfois ça ? Touchons du bois. Et puis il n'y a plus beaucoup de bois. Hein, si vous allez chez Ikea pour savoir que c'est que du carton, il n'y a plus de bois là-bas. Donc, ça devient compliqué. Enfin, ici sur les bancs, il y en a. Mais... Voilà. Alors tout ça vient. En tout cas est associé au fait que le bois, les arbres, dans cette étape animiste que tout être humain a au début de sa vie, considérant un arbre, une forêt, un ruisseau comme autant d'êtres vivants autour de lui, à un moment donné, ces arbres, et dans un mouvement animiste plus religieux, ont été considérés comme des dieux. Et donc, en considérant le fait de toucher le bois, ben, était en relation, en remerciement avec ces dieux. Encore une fois, parce que c'est important, la corrélation n'est pas la cause. Le stress peut ici entraîner un cancer, ou le stress en lien avec des facteurs connus et inconnus, l'exercice, l'alimentation, l'environnement, peut entraîner un cancer. Alors c'est particulièrement important des moments où vous savez qu'il y a des crises économiques un petit peu partout, soit en Europe, en Asie. Le stress augmentant, la consommation de tabac et d'alcool augmente. Et donc on a cette corrélation avec un facteur intermédiaire qui va conduire à des mécanismes cancérogènes, délétères pour l'individu. Un exemple d'échelle ou de questionnaire, c'est la RRS, pour Ruminative Response Scale, de Suzanne Nolle-Oxema. Et vous voyez, par exemple... pourquoi est-ce que ils arrivent souvent de réfléchir à pourquoi est-ce que j'ai un problème que les autres n'ont pas? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Et est-ce que ça tourne, etc., etc. Donc vous pouvez avoir toute une série de réflexions, et cette échelle là mesure les ruminations et va les lier à des facteurs plus obsessionnels ou plus dépressifs, par exemple. Ici, une échelle de propension à être en méditation en pleine conscience. Par exemple, j'oublie le nom d'une personne presque immédiatement après l'avoir entendue pour la première fois. Je fais les choses très rapidement sans y prêter vraiment attention. Je me surprends à écouter quelqu'un d'une oreille tout en faisant autre chose. Là, c'est le cas pour certains d'entre vous, au vu du bruit de fond ambiant. dire que celui-là. Ouais. Et donc, ça dénote une absence de capacité à rentrer en état de pleine conscience, hein, bien sûr. Une échelle de compassion pour soi, dans l'observation et l'étude de cas, on va avoir ce qu'on va pouvoir décrire. Et quand on veut décrire, par exemple, le faciès de cette personne, vous diriez quoi, monsieur avec les lunettes dans les cheveux? Ouais, vous. Vous diriez quoi en voyant cette personne? Pour vous, elle a quoi, cette personne? Fort différent, ça. Triste ou pensif. Hein.
Comme être effrayé ou en colère, quoi. C'est pas du tout la même chose. Et c'est la difficulté, on en parlait la fois dernière. Quand il faut décrire, il ne faut pas interpréter.
Donc on a une personne qui a les yeux ouverts, qui n'a pas l'air si jeune que ça, mais qui a des cheveux quand même, qui a la main sur le menton, qui ne sourit pas. Et vous faites une inférence que si vous étiez comme ça, vous pourriez être triste, et votre voisin fait une inférence qu'il pourrait être pensif.
C'est peut-être les deux.
Donc, description, observation, sans inférence et sans interprétation, c'est important. L'étude de cas consiste en l'analyse en profondeur d'un individu ou d'un petit groupe d'individus afin d'en découvrir de nouveaux aspects. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent biaiser les données, c'est si on a trop peu de personnes. Et puis la désirabilité sociale, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la tendance des participants à fournir des réponses qui donnent d'eux une image favorable plutôt que de rapporter la vérité. Et la tendance à vouloir plaire aussi à l'expérimentateur. On voit que dans les études de cas, on les désigne souvent sous le terme de leurs initiales, HM. Ce qui est questionnant par rapport à l'anonymat qui est souvent préconisé. L'observation peut être celle dans la nature, d'un groupe de primates ici, mais qui ne sera jamais insensible au fait de se savoir observer. Quelqu'un qui est observé agit différemment que s'il n'est pas observé. Un étudiant qui fait un jeu de rôle avec une caméra et qui sait qu'il va devoir se coter quant à son comportement ne va pas agir exactement de la même manière que s'il n'y a pas la caméra ou s'il sait qu'on ne va pas le regarder, qu'on ne peut pas le regarder. Introduire donc un artifice d'un tiers sous forme de caméra ou sous forme d'un humain qui observe permet finalement d'adapter son comportement à une certaine situation. Alors il y a des mesures physiologiques qui peuvent être prises, comme la conductance cutanée, qui a mesuré la conductance électrique en deux points, en point A et en point B. On envoie un micro-courant électrique qui est en point A, et on calcule le temps qu'il met pour arriver dans un point B. Plus on transpire, plus le courant passe vite, puisque l'eau et les ions vont être conducteurs de l'électricité. Et la transpiration peut augmenter en cas d'émotion. C'est une activation du système nerveux autonome, partie sympathique. Nous le verrons plus loin. Alors le rythme cardiaque, sa vitesse, sa fréquence, et la variabilité du rythme cardiaque. On peut mesurer la vitesse des battements du cœur, c'est qui va augmenter en cas d'émotion. On peut avoir du rétro-contrôle, du rétro-feedback pour voir adapter cela à un moment donné aussi. L'électromyographie, ce sont les mouvements musculaires, myo, qui sont impliqués. On peut détecter des émotions réprimées, des contractions de certains muscles du visage que l'on essaye de masquer, de cacher, pour ne pas l'exprimer de manière sociale. Un truc dégueu, on fait semblant que c'est pas dégueu, mais on contracte quand même les muscles et on peut le voir en mesurant l'activité dans les muscles. C'est un peu ça le principe. La plétismographie pénienne, qui est de mesure de l'apport du sang dans le pénis, qui augmente en cas d'érection. Alors, c'est pas utilisé couramment, cette histoire. Mais imaginez, chez des prédateurs sexuels, le fait de pouvoir présenter des images et voir quelle est la réaction des personnes au niveau physiologique, ben, c'est différent que de demander à quelqu'un « Est-ce que vous êtes encore attiré par des petits-enfants, par exemple, pour des pédophiles qui seraient dans des... comment dire, dans des lieux de défense sociale. Un autre test, c'est celui du test de Stroop. Alors, essayez de faire l'exercice. Il faut lire cette liste, mais faites-le en tête. Il faut dire la couleur de chaque mot et pas le mot lui-même. Ouais. Essayez un petit peu de faire ça. Alors, vous allez voir tout de suite qu'il y a des mots que l'on va... Ah, c'est pas totalement en silence. Ouais. Allez. Vous commencez à fatiguer un peu, en fait, c'est ça? Ouais, vous fatiguez un peu? Une petite pause. Alors, vous n'oublierez pas, pour dans une semaine, pour ceux qui devraient s'échapper maintenant, pour dans une semaine, pour le dimanche, il y a un devoir qui sera envoyé sur Web Campus. Voilà, bonne pause. Dans 5 minutes pile, je reprends. Je vous ai parlé d'un devoir. Ce n'est pas les devoirs qui sont affichés sur Web Campus maintenant. Ce n'est pas mis à jour. On doit mettre à jour Web Campus pour que vous ayez le questionnaire. Ça va ? Donc, ce sera mis à jour ce soir, dès après le cours. Continuons. Le principe de l'effet Stroop. Alors, ne faites plus les exercices parce que ça fait trop de bruit pour moi. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Alors, le principe de l'effet Stroop provient d'une interférence en deux processus cognitifs automatiques. Ici, il faut identifier la couleur du mot et lire le mot. Il y a un effet de facilitation quand la couleur est la même que celle du mot à lire. Donc, lire rouge écrit de couleur rouge, c'est plus facile que lire rouge écrit de couleur noire, par exemple. La lecture plus rapide, donc en cas de congruence du nom et de la couleur. Et un effet d'inhibition que la couleur du mot est différente de celle à lire. Si on dit bleu, écrit bleu, mais c'est rouge, là je dis rouge. La lecture est moins rapide en cas d'incongruence du nom et de la couleur. Les effets de facilitation et d'inhibition, c'est-à-dire d'accélération et de ralentissement de la lecture, fonctionnent en fonction de la congruence ou l'incongruence du mot et de la couleur, ne s'observent que lorsque ces deux processus automatiques sont préservés. Pas chez quelqu'un qui ne différencie plus les couleurs et pas non plus chez un enfant qui ne sait pas lire. Si, chez un adulte qui sait lire, on met, par exemple, des idéogrammes ou une langue qui ne sait pas lire, je ne sais pas, du chinois par exemple, du mandarin, et ben à ce moment-là, comme il n'y a plus cette capacité de lecture, il n'y a plus cet effet d'interférence. Il va tout de suite dire rouge, vert, bleu, puisque ce sera de reconnaître la couleur. Il ne va plus, cette personne ne va plus être gênée par la lecture automatique du mot. De la même manière, si une personne est dans un état de dissociation hypnotique et qu'on lui suggère à ce moment-là qu'elle ne sait plus lire les mots, les mots n'ont plus de sens, ou inversement que les couleurs ont plus de sens, si on inverse les règles, à ce moment-là, il y a une disparition de cet effet d'interférence également. Voilà, c'est assez logique, cet effet Stroop. On peut faire des Stroop émotionnels, c'est la même chose, si ce n'est qu'on va avoir, donc ne faites pas l'exercice s'il vous plaît, on va avoir des mots qui touchent au sujet. Hein, par exemple ici, la personne risque de s'arrêter à chaque fois que le mot touche à quelque chose en lien avec une araignée, par exemple. Ou en lien avec quelque chose qui concerne la mort, par exemple. Donc, il y a un ralentissement quand l'objet phobogène est celui qui fait l'objet de la lecture. Alors ici, accrochez-vous, parce que souvent quand je pose une question d'examen, c'est pas super bien réussi. C'est un test d'association implicite, IAT pour implicit association test. On demande au sujet de classer dans deux catégories distinctes des mots comme surpoids dans la norme, des images présentant le surpoids ou dans la norme de poids, ou encore des symboles. Donc mots, images, symboles présentent le surpoids ou la norme de poids. Il y a deux touches sur le clavier, il faut classer gauche, droite à chaque fois. Donc ça, c'est une première étape. Il y a différentes étapes. Ensuite, à l'étape 2, on demande au sujet de classer des mots dans les deux catégories distinctes, bon ou mauvais. La joie, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ou des images qui représentent des choses chouettes ou non? Voilà, bon. Il va classer, il va donner son avis. Chouette pour l'individu qui cote, pas chouette dans l'absolu. Est-ce qu'il trouve ça chouette ou pas? Dans l'absolu, on s'en fout. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de voir le temps de réaction pour pousser à gauche et à droite en fonction des mots et des associations qui sont suggérées. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'implicit association task. Il va y avoir un cumul de ces associations pour pouvoir comprendre au fur et à mesure ce que la personne pense grâce à ces associations, puisqu'il va aller plus vite pour classer ce qui est évident, ce qui correspond à ses convictions, ce qui est congruent pour ce à quoi il pense et il croit. On demande ici, dans l'étape 3, au sujet de classer des mots, des images, des symboles liés, soit au surpoids, soit au poids normal, soit à bon, soit à mauvais, dans la bonne catégorie. Alors, il va faire gauche, droite, gauche, droite. On voit qu'on a une double association entre les termes. Et puis, dans l'étape 4, on va demander encore de classer des mots, des images, des symboles, surpoids, poids normal, soit à bon, mauvais, dans la bonne catégorie. Encore. Donc, on répète l'expérience. Alors, comment est-ce qu'on va calculer les associations implicites du surpoids ou du poids normal avec des bonnes ou des mauvaises choses? Si on a un ralentissement du temps de réaction, lorsqu'il s'agit de classer des mots positifs dans la catégorie « bon » si celle-ci est du même côté que celle du surpoids à l'étape 3, double association. S'il y a un ralentissement, on sait qu'il y a une attitude négative vis-à-vis du surpoids, puisque le terme « surpoids » va venir ralentir, être incongruent par rapport à ce que pense la personne, par rapport au fait que c'est bon d'être en surpoids. Inversement, on va avoir une attitude positive vis-à-vis du surpoids, s'il y a une accélération du temps de réaction lorsqu'il s'agit de classer les mots positifs dans la catégorie « bon » si celle-ci est du même côté que celle du surpoids. Et on inverse le bon et le mauvais vers surpoids, vers... Et donc on mélange tout ça, et à chaque fois, on va avoir des temps de réaction différents. Et c'est le cumul de ces temps de réaction qui permettra de dire oui, bon, cette personne, il a un a priori négatif par rapport aux personnes en surpoids ou par rapport aux personnes qui sont de poids normal, etc. Si on a accélération du temps de réaction lorsqu'il s'agit de classer des mots positifs dans la catégorie bon, si celle-ci du même côté que celle du poids normal à l'étape 4, vous savez que c'est une attitude négative, c'est une accélération du temps de réaction. Lorsqu'il s'agit de classer des mots négatifs dans la catégorie mauvais, si c'est du même côté que celle du surpoids, on sait que c'est une attitude négative. Ce n'est pas très compliqué, hein, mais il faut pouvoir jongler avec le cumul de ces associations. C'est simplement ça. L'intérêt de ces tâches d'association implicite, c'est que on peut les utiliser pour poser toute série de questions gênantes qu'il est difficile de poser sans toucher à une désirabilité sociale ou à un discours convenu dans la société. Qu'est-ce que vous pensez des hommes? Qu'est-ce que vous pensez des femmes? Qu'est-ce que vous pensez de telle religion? Qu'est-ce que vous pensez de tel comportement, de telle attitude, de telle personne qui provient de tel pays? Et vous pouvez ainsi préciser, sans poser la question de manière explicite, c'est tout l'enjeu de cette tâche, vous pouvez pas deviner, vous pouvez calculer la force de l'association entre ce que vous demandez et toute une série d'attributs. C'est un outil qui est très, très puissant et qui permet finalement de faire des études très intéressantes justement sur des sujets qui peuvent être parfois un petit peu délicats ou polémiques. Alors il y a d'autres méthodes qui consistent à essayer d'utiliser une approche biologique et la compréhension du psychisme. Il y a la dissection du cerveau, bien sûr, une fois que la personne est décédée. Essayer de comprendre comment ça marche. Hein. C'est comme ça qu'Alois Alzheimer a pu identifier des lésions typiques avec les neurofibrilles, par exemple, chez les personnes souffrant de troubles mnésiques, de démence, avec des troubles mnésiques. Il y a des techniques d'ablation, des techniques traumatisantes. Alors on sait que lors de l'enlèvement d'une certaine partie du cerveau dans le cadre de cicatrices, de problèmes de sarcoïdose, d'infection, de cancer, il peut y avoir des répercussions sur les comportements et sur le psychisme. C'est l'étude de ces lésions qui sont réalisées de manière encadrée à des fins thérapeutiques chez des individus qui nous permet aussi de mieux comprendre comment fonctionne telle ou telle partie du cerveau sans qu'elle ne soit plus présente ou lorsqu'elle est endommagée. Les observations cliniques et les études de cas, on a un petit peu parlé avec le fameux HM, hein, c'est observation et enregistrement de changement de personnalité, et on verra ça avec Phineas Gage prochainement. Il y a l'enregistrement de l'activité bioélectrique, avec des tracés qui sont obtenus par l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau au moyen d'électrodes posées sur la tête. On peut étudier des potentiels évoqués, on peut étudier des différences de potentiel, des réactions, des ondes positives, négatives, en fonction de stimulations qui sont induites chez l'individu. C'est un moyen donc qui est utilisé aussi. On peut utiliser l'imagerie cérébrale comme la tomodensitométrie. Hein, on peut utiliser la tomodensitométrie par émission de positrons ou le PET scan, hein, le TEP, la TEP, qui vont illustrer pour l'un la structure du cerveau et pour l'autre la fonction du cerveau en fonction du radiomarqueur hein, qui va être utilisé, soit du glucose radioactif qui va aller dans des cellules qui sont stimulées de par la tâche dans laquelle la personne est engagée, une tâche de concentration, avoir une activité plus importante dans les cortex frontopariétaux chez un individu, donc cette activité va solliciter un afflux de sang venu de glucose et donc marquer spécifiquement cette fonction à l'imagerie par tomographie par émission de positrons. Il peut y avoir des électrostimulations du cerveau, alors ça ne se fait pas de manière courante, mais on verra aussi dans un chapitre que Wilder Penfield, en 1958, a fait un tracé hein, avec une carte de la surface du cerveau et a identifié différentes régions et leurs fonctions. Il a proposé un petit plus pour la présentation et qui montre des parties relatives en termes de motricité ou de sensibilité. Et ces électrostimulations se font lors, encore une fois, d'opérations justifiées d'un point de vue thérapeutique de personnes qui souffrent, par exemple, d'une tumeur cérébrale ou d'épilepsie en lien avec des problèmes qui doivent être enlevés au niveau du cerveau. Et pour pouvoir s'assurer que, dans le cours de l'opération, on ne va pas enlever des régions importantes, il faut pouvoir stimuler l'intérieur du cerveau. Hein, comme vous le savez ou pas encore, le cerveau est le seul organe qui n'est pas innervé. Bon, pas de nerfs dans le cerveau, il y a des nerfs autour, mais pas dedans. Ça veut dire que vous pouvez opérer quelqu'un dans le cerveau en même temps qu'il est éveillé et vous avez l'impression à lui faire faire des tâches de répétition de mots pour être sûr de ne pas léser des régions du langage si vous êtes proche de régions du langage. Donc, électrostimulation qui est un moyen aussi intéressant pour pouvoir étudier différents mécanismes psychologiques. L'imagerie par résonance magnétique et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, il y a la même dialectique qu'entre le scanner et le PET scan, et donc la technique est relativement différente, mais permet à la fois d'avoir la structure et la fonction, ici par un changement de signal paramagnétique au niveau du cerveau, encore lié à l'afflux sanguin qui va venir déposer de l'oxygène, et on sait que l'hémoglobine oxygénée et l'hémoglobine désoxygénée va avoir un signal paramagnétique différent, et c'est ce changement de signal paramagnétique qui va conduire à l'identification d'une activité indirecte dans différentes régions du cerveau. Alors on sait que ces méthodes expérimentales peuvent être utiles pour pouvoir poser des questions quant au fonctionnement de certaines théories. Et c'est à ça que servent certaines expériences, c'est de pouvoir remettre un peu en perspective des choses dans lesquelles les gens peuvent croire à un moment donné, mais qui n'ont pas vraiment de fondement rationnel lorsqu'on les étudie de plus près. C'était fait, entre autres, ici, par le toucher thérapeutique. Peut-on, par le toucher, guérir quelqu'un? Bien, il suffit de faire des expériences en double aveugle, que les gens ne se connaissent pas, et voir s'il va y avoir des différences statistiquement significatives dans ces groupes-là, et on voit qu'au final, ça ne change strictement rien selon ces études-là. Donc c'est important, et ça fait vraiment la part des choses entre ce qui pourrait être du domaine de la croyance, de la conviction, et puis du domaine de l'expérimentation et de la science, qui, dans cette démarche scientifique en 6 étapes, doit être testée au moyen d'hypothèses donc testables. On a parlé tout à l'heure des problèmes chez les chercheurs, le biais de l'expérimentateur, les études à simple aveugle, c'est-à-dire que on peut le chercheur peut biaiser éventuellement les résultats en mettant dans un groupe expérimental des personnes qui sont plus favorables à une issue positive de l'étude et dans le groupe contrôle des personnes qui sont moins favorables. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir des aspects de double aveugle. Je ne vais pas revenir sur l'ethnocentrisme. Alors, il y a des problèmes chez le chercheur qui sont solutionnés par l'utilisation de placebo, par l'échantillonnage qui doit être large et un assignement, une répartition des candidats qui doit être randomisée, bien évidemment. Ça, on en a déjà parlé. Alors, pour vous illustrer ici une multiplicité des designs et de mise. Il faut pouvoir vous poser la question, quel va être mon mode d'acquisition de données, les conditions environnementales, le type de mesure, la taille d'échantillon, la durée de l'étude. Ces 5 dimensions sont absolument cruciales. Et en fonction de la question que vous allez vous poser, vous pourriez par exemple avoir une étude en observation dans un milieu naturel avec des mesures auto- ou hétéro-rapportées dans des échantillons représentatifs et puis avec des durées longitudinales et pas à un moment unique. C'est un exemple de design. Il y a une formalisation des hypothèses en variables dépendantes et indépendantes. C'est important aussi de pouvoir bien faire la différence de ces hypothèses-là. Lorsqu'on sait ce que l'on veut étudier, on va le formaliser sous forme d'hypothèse. On cherche à investiguer l'effet de X, qui est la variable indépendante, sur Y, qui est la variable dépendante. Donc l'effet du statut socio-économique d'un étudiant sur sa réussite académique. Statut socio-économique, c'est la variable indépendante. Sa réussite académique, c'est la variable dépendante. La variable, ça veut juste dire qu'il peut varier. Les deux peuvent varier, la variable indépendante et la variable dépendante. Les deux peuvent varier, donc ce sont deux variables, d'où parfois la petite confusion. Les variables peuvent être de différentes natures. Elles peuvent être nominales, des simples étiquettes, pas de métrique possible. Bon, c'est l'effet du sexe sur l'empathie, variable indépendante, variable dépendante. Ben, le sexe, il ne se mesure pas. Il n'y a pas de métrique possible. C'est marrant, ça. L'effet des chromosomes sur le sexe, bien sûr, avec une variable dépendante nominale. Le sexe, ici, étant la variable dépendante nominale. Ordinal, les rangements sont possibles, mais avec des intervalles, pas forcément constants entre les niveaux. Ben, niveau d'éducation, primaire, secondaire, enseignement supérieur de type court, enseignement supérieur de type long, voilà. Ça ne nous dit pas si la personne a mis 10 ans pour faire ses études, alors qu'il était possible de les faire en 5 ans. Ça ne nous dit pas d'autre chose qu'un niveau qui n'est pas réparti de manière uniforme. variable indépendante ordinale, l'effet du niveau d'éducation sur la santé. Et variable dépendante ordinale, c'est l'effet du niveau socio-économique des parents sur le niveau d'éducation des enfants, par exemple. Il y a d'autres variables qui sont continues à intervalles, des intervalles constants mais zéro, qui n'est pas vrai, la température, par exemple. Même raisonnement, et puis des valables continues à proportion, des intervalles constants et le zéro qui est vrai. On peut peser 0 kg, mais on n'existe pas alors. Hein, la vitesse peut être à 0 aussi. Les variables indépendantes continues à proportion, avec l'effet du taux de testostérone sur l'empathie, il pourrait être à 0. Variables dépendantes continues à proportion, l'effet de l'âge sur les taux de testostérone qui pourrait être à 0, bien évidemment. Alors, la raison d'être et l'importance des statistiques sert à éviter de tirer des conclusions abusives à partir d'un cas unique, à éviter de devoir consulter, observer toute la population pour pouvoir en tirer une règle, une prédiction, un changement possible à proposer. C'est un outil très puissant et vous avez certainement des causes statistiques de manière abondante pour se faire dans des filières de sciences. Hein. Attention à l'interprétation des statistiques. Se souvenir que les statistiques sont des généralités qui ne s'appliquent dans une majorité de cas, mais pas spécialement pour tout le monde. Il faut regarder tous les paramètres, la dispersion également, pas seulement la moyenne. Vérifier que l'échantillon est représentatif de la population. Vérifier qu'il n'y a pas de biais majeur dans l'étude. Si tous les fumeurs d'échantillons viennent d'une région polluée par ailleurs, comment faire la différence entre la pollution et le tabagisme? Ne pas conclure trop vite qu'il y a une relation causale entre deux variables. On peut utiliser de simples covariations en raison d'une tierce variable. On a pris l'exemple de la glace et de la mort par noyade chez des enfants. Elle était expliquant cela. Alors, pour un individu, quand une maladie survient, pour lui, bien sûr, c'est 100% des cas. Qu'on lui explique que cette situation là, l'individu n'en a rien à faire naturellement. Pour lui, quand ça lui arrive, c'est 100% des cas. Et donc, importance des statistiques, mais à relativiser dans un entretien, dans une relation, puisque ce n'est pas un argument valable, pouvoir dire à quelqu'un qui a un effet secondaire, par exemple, après l'administration d'un médicament, que c'est rare, il n'en a rien à faire que c'est rare. Si ça arrive chez lui, c'est 100% des cas, bien évidemment. Alors ici, une référence pour ceux qui ont du mal à dormir et qui veulent lire un petit peu de statistiques pour se détendre. Alors, est-ce que vous êtes dispo pour... aborder le chapitre 2 sur le système nerveux dès aujourd'hui.